Décryptage.
Anne Cantner.
Les images ont fait le tour du monde, la forêt amazonienne en flammes pendant des jours, des semaines même au Brésil. Nous vous emmenons ce soir au cœur de cette forêt, de ce poumon de la planète comme on la surnomme, pour mieux comprendre ce qui s'y passe. Comment en est-on arrivé là? Le président Jair Bolsonaro est-il le seul responsable de la situation? Que peut faire la communauté internationale? Bref, pourquoi la forêt amazonienne est-elle en flammes? Bienvenue dans Décryptage. Pour répondre à ces questions, nous recevons Stéphane Rostin. Vous êtes archéologue et chercheur au CNRS. Bonjour.
Bonjour.
À vos côtés, Oriane Verdier, journaliste au service international de RFI. Bonjour.
Bonjour.
Oriane, vous rentrez tout juste du Brésil. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà, pour commencer, qu'est-ce qui brûle exactement depuis plusieurs semaines?
Alors moi, j'étais dans l'état de Rondônia, donc en effet dans l'un des états d'Amazonie, un des états qui a subi le plus d'incendies cette année. Ce que j'ai beaucoup vu, moi, ce sont des parcelles de forêt qui sont en fait très proches des parcelles déjà cultivées, d'anciennes parcelles de forêt qui ont déjà été finalement lissées pour pouvoir y mettre du bétail. Et donc finalement, ce que j'ai beaucoup vu, c'est des agriculteurs qui mettaient le feu à des parcelles de forêt déjà déboisées dans un premier temps et donc à sécher et donc qui prennent le feu très facilement afin d'avoir une de plus grandes parcelles de terrain pour finalement faire leur travail et élever leur bétail.
Si ces parcelles ont déjà été déboisées, est-ce que ça signifie pour autant que ces feux sont légaux ?
Non, parce qu'en fait, normalement, il y a une certaine portion des terrains de chaque agriculteur dans cette zone amazonienne qui doit être conservée, normalement, selon la loi. Sauf qu'en fait, ce que disent les agriculteurs, c'est qu'ils ne reçoivent aucune subvention pour les aider à conserver ces parcelles de forêt sur leur propre terrain. Et donc, puisque ce sont leurs terrains, qu'ils ont le droit de les brûler puisque personne ne les aide. Alors après, en fait, finalement, c'est un peu à chacun sa vérité et à chacun son texte de loi. C'est assez trouble comme réalité.
Aujourd'hui, quelles sont les zones au Brésil, puisque c'est là que vous étiez, qui sont concernées par les incendies?
La zone qui a été le plus concernée au début, c'était vraiment beaucoup vers la frontière bolivienne. Maintenant, c'est remonté plus dans l'état du Pará. Vous pourrez confirmer ou affirmer ce que je dis. Donc en fait, c'est vraiment à la lisière. C'est toujours un peu au début de la forêt amazonienne, puisque c'est dans ces terrains qui sont entre les terrains cultivés et le début de la forêt, qui est quand même une partie moins humide que le cœur de la forêt amazonienne.
Ce sont donc des terres déjà déboisées qui brûlent et qui vont probablement continuer à brûler puisque la saison sèche n'est pas terminée. Les incendies sont donc directement liés à la déforestation, Stéphane Rostin, et la déforestation s'accélère au Brésil.
Oui, elle a toujours été très forte. À vrai dire, c'est un travail de marabunta, de la fourmi marabunta. On grignote petit à petit, et c'est pour ça que c'est très dur d'avoir des images, d'ailleurs, puisque ça ne brûle pas, enfin, c'est pas des incendies façon Notre-Dame, hein. C'est beaucoup plus discret, mais c'est permanent, surtout en période sèche. Et donc, on ouvre des routes qui lancent des colons qui vont en effet brûler petit à petit la forêt. Mais multiplié par des milliers, ça fait tout de suite des grandes superficies.
Et l'ampleur de ces incendies, des incendies des dernières semaines, a beaucoup choqué dans le monde entier et en premier lieu au Brésil.
C'est important que le peuple descende dans la rue, parce que Bolsonaro a offert le Brésil aux très riches. Il travaille main dans la main avec les grandes entreprises et les propriétaires terriens qui croient que l'Amazonie leur appartient.
Comme cette manifestante de Rio, de nombreuses voix mettent directement en cause la politique du président brésilien. Il faut dire que depuis son arrivée au pouvoir au début de l'année, Jair Bolsonaro a fragilisé les institutions qui sont censées protéger l'environnement, Stéphane Rostin.
Oui, alors c'est pas le premier coupable. Il faut savoir que depuis longtemps, enfin Lula était le premier en 2005 à proposer des lois pour empêcher la déforestation. Le seul problème, c'est que les condamnations n'étaient pas appliquées et donc les gens continuaient, ont repris de plus belle, notamment à partir de 2012, à déforester, voyant qu'ils étaient impunis. Et le problème de Bolsonaro, c'est que lui a clairement affirmé qu'il était pour l'exploitation de la forêt. On n'oublie, faut pas oublier qu'il y a un an, c'était dans son discours avant son élection, il faut utiliser la forêt, elle nous sert à rien. Et il a un discours en plus nationaliste derrière, en disant c'est quand même pas des gens qui ont exploité la forêt pendant des siècles qui vont nous dire quoi faire de notre forêt nationale. Et le plus simple, c'est de s'en débarrasser de cette forêt, comme ça on n'aura plus d'histoire. C'est un discours d'enfant, hein.
Alors, Oriane Verdier, Stéphane Rostin l'évoquait à l'instant, il y a eu déjà un certain nombre de politiques qui ont été mises en place. Vous avez pu le constater pendant vos reportages, la déforestation n'a pas commencé cette année, évidemment. Cela fait longtemps, en fait, que la forêt est grignotée petit à petit.
Oui, en fait, les paysans, les agriculteurs dont je vous parlais tout à l'heure, beaucoup m'expliquaient être arrivés ici, enfin, sur les terres où ils sont actuellement, il y a 18 ans, donc sous le gouvernement de Lula. Et à ce moment-là, il y avait donc une politique environnementale qui suivait une idée selon laquelle si la forêt était habitée, eh bien ses habitants prendraient soin de la forêt. Donc des personnes très pauvres ont été choisies par cette politique-là. On leur a octroyé des parcelles avec, comme je disais, un pourcentage qu'ils avaient le droit de cultiver, un autre pourcentage qu'il fallait qu'ils préservent. Mais donc finalement après, toutes les subventions ne sont pas arrivées et donc après ces terres ont été revendues à des gens qui venaient pour finalement faire du bénéfice. Donc qui se sont permis d'aller plus loin et de grignoter de plus en plus la forêt amazonienne.
Donc cette notion de protection a été complètement perdue.
Oui, après, les agriculteurs que moi j'ai rencontrés, surtout ceux qui sont les plus pauvres, parce qu'il y a quand même des agriculteurs très très pauvres. Et donc moi, ils m'expliquaient, écoutez, moi je veux bien qu'on m'explique comment préserver la forêt amazonienne. Moi, je veux bien qu'on me donne les moyens de le faire. Moi, pour l'instant, j'ai une famille et il faut que je leur donne à manger. Mon bétail, si je le laisse un certain nombre d'années sur cette terre, finalement, à la fin, elle sera pas fertile, donc j'ai besoin d'agrandir. Je dis pas qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort, mais c'est vrai que ça ne veut pas dire que les agriculteurs sont les grands méchants de l'histoire et qu'ils ne s'intéressent pas du tout à l'environnement. C'est un problème, à mon avis, beaucoup plus profond, de moyens aussi, parce que c'est des gens vraiment extrêmement oubliés. Là où moi je suis allée, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'hôpital, pas de médecin, une simple route de terre rouge qu'on peut suivre pendant des heures et des heures sans trouver un petit magasin, quoi. Donc voilà, c'est deux réalités assez différentes entre, par exemple, cette manifestante qu'on entend à Saint-Paulo, et c'est ce qu'on m'a beaucoup dit aussi à Rondonia, c'est qu'on sent vraiment une différence, une rupture entre les gens qui vivent sur place et les gens qui sont dans les grandes villes et qui ont une vie complètement différente.
Il y a une grosse différence entre les idéaux et puis les réalités qui sont évidemment beaucoup plus complexes. Alors il y a eu cette réforme de l'ancien président Lula, il y a eu aussi depuis d'autres coups de canif dans les règlements qui protègent la forêt amazonienne. Dilma Rousseff, par exemple, avait réduit les amendes contre ceux qui empiètent illégalement sur la forêt, c'était en 2012. Elle avait aussi instauré une amnistie pour les crimes passés. Stéphane Rostin, est-ce qu'il s'agit là d'une volonté politique ou est-ce qu'il faut voir derrière ce genre de décision des pressions et notamment du lobby agroalimentaire au Brésil?
C'est évidemment cela qui est en cause. Ils ont quand même, ils tiennent le pays économiquement, ils ont beaucoup de pouvoir et c'est vrai, passer à la présidence sans s'arranger avec ces lobbies est intenable. Donc c'est vrai que Dilma a un peu faibli face à ses pouvoirs, mais on peut difficilement lui reprocher. Dans le cas de Bolsonaro, lui, il est clairement depuis le début du côté du bâton et de l'allumette, j'ai envie de dire. Il a toujours dit qu'il fallait se débarrasser de la forêt. Et c'est vraiment un discours très puissant. Alors cette année, on est à près de 300% plus de feux que l'année dernière. C'est ça un peu l'étincelle qui a fait déborder le vase.
Selon des chiffres qui sont donnés par l'Institut brésilien de recherche spatiale, donc ce sont des chiffres
officiels,
nationaux.
Oui, officiels. Même s'ils sont reniés par le président. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'Amazonie, ce sont 9 pays et qu'ailleurs aussi, il y a des avanies dont on ne parle pas du tout et qui sont pourtant fortes. La déforestation, les incendies ont augmenté énormément en Colombie, par exemple. Colombie est passée sur le podium, a remplacé le Brésil au point de vue taux de déforestation. Il y a les glyphosates qui sont utilisés, il y a les mines, beaucoup de mines, que ce soit pour l'or ou pour le, comme en Guyane française, ou pour le pétrole, comme en Équateur. Tout cela, ce sont des attaques directes à la forêt. Et faut pas oublier, enfin, il faut pas que les feux principaux nous aveuglent au point qu'on ne voit pas que les autres pays sont aussi un peu responsables et ne font pas grand chose. C'est pas la petite réunion qui a eu lieu le week-end dernier.
Réunion qui réunissait donc les pays qui ont une partie de la forêt amazonienne sur leur territoire, à l'exception de deux, mais enfin il y avait quand même les principaux et les.
On oublie le troisième qui est très important.
La France.
La France n'était pas représentée.
La France, effectivement, trois pays.
Elle donne des conseils, mais elle n'est pas présente de ce genre de réunion qui, c'est vrai, est une réunion un peu de vitrine. On chante Serrat, on est tous frères. À côté de ça, on demande aux Indiens de cacher les plantes de coca rituelles derrière des pots de fleurs. C'est... Donc il y a une négation de l'Amazonie dans beaucoup de pays qui voient l'Amazonie comme quelque chose de dérangeant qu'il faut utiliser et rendre rentable.
Comme une ressource. Il y avait quand même eu au Brésil, en tout cas, une période d'amélioration dans les années 2000. Qu'est-ce qui avait permis cette amélioration, Stéphane Rostand?
Au Brésil, c'est Lula, clairement, qui a eu une politique très dynamique. Il a essayé de faire quelque chose pour la forêt, mais aussi il a beaucoup aidé la recherche, l'université. Il y a eu un grand dynamisme. Moi, j'y ai assisté en direct. Un grand dynamisme de la recherche au Brésil qu'il faut saluer et qui a tendance un peu à s'éteindre au fur et à mesure que les feux s'allument.
Depuis donc, la situation, effectivement, c'est de nouveau dégradé. Et pour l'instant, en tout cas, les autorités brésiliennes ont plutôt tendance à minimiser l'ampleur des dégâts.
Tout ce que les gens racontent, ça n'existe pas. Il y a des incendies, mais ça arrive depuis des années à cause de la sécheresse. Mais tout le monde est conscient de la nécessité de respecter l'environnement. Chaque producteur respecte et préserve une partie de la forêt sur ses terres, tout comme les indigènes. Ce qu'on raconte dans les médias à l'étranger n'est que politique. C'est répugnant et ça arrive dans le monde entier.
Oriane Verdier, c'est vous qui avez recueilli ces propos. Ces mots sont ceux du préfet chargé des terres, tout Paris, c'est près de la frontière avec la Bolivie. L'attention mondiale qui a été portée à ces incendies a-t-elle fait bouger les lignes? Est-ce qu'il y a une volonté réelle des autorités de protéger davantage la forêt amazonienne?
Moi, en tout cas, je l'ai pas senti. Après, je suis pas à Brasilia avec les autorités. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que là,
au niveau local, en tout cas,
justement,
vous étiez.
Ouais, ce préfet que là vous avez diffusé, je l'ai quand même interviewé en terre tout Paris, c'est-à-dire face à plus d'une centaine de femmes indigènes qui se sont rassemblées pour parler du problème. Et lui, sans aucun problème, me dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de feu, que tout ça, c'est vraiment l'invention des médias et des ONG qui sont vraiment les grands méchants de l'histoire, selon Bolsonaro et ceux qui les suivent. Et donc, du coup, voilà, c'est pour l'instant, il y a vraiment, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de changement dans le discours, ce qui ne fait que qu'amplifier la rupture entre ceux qui sont pro-Bolsonaro, les agriculteurs par exemple, et les défenseurs de l'environnement et des indigènes.
J'aimerais qu'on écoute un autre témoignage que vous avez recueilli dans cette même région, dans les terres tout Paris.
Comment est-ce que le soleil seul peut brûler la forêt? C'est pas possible. C'est l'être humain qui brûle, l'agriculteur surtout. Une fois, ils nous ont dit, demain matin à l'aube, vous serez tous brûlés, on va mettre de l'essence ici, mettre le feu. Et malgré tout, on continue de lutter.
Cette femme fait partie de la tribu Purubora. Je suis vraiment désolée pour l'accent parce que je parle pas du tout la langue. Elle vit sur des terres qui sont donc entourées d'agriculteurs. On vient d'en parler un petit peu. Oriane Verdier, vous qui avez rencontré ces populations indigènes, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elles ressentent aujourd'hui?
Beaucoup de peur finalement, hein, parce que ça fait donc des années qu'ils luttent contre soit la réduction de leurs terres, soit pour que leurs terres qui leur ont été prises, enfin, que eux considèrent comme, enfin ils considèrent qu'on leur a pris, que ça leur revienne, et donc elles ont peur vraiment, parce que non seulement il y a ce discours de Bolsonaro qui donc finalement donne le droit à des entrepreneurs des scieries, soit à des orpailleurs, soit voilà, toutes ces personnes-là se sentent le droit de rentrer sur ces terres. Et puis en plus, il y a aussi quand même quelque chose, il y a eu la légalisation aussi du port d'armes. Donc en fait, finalement, ce conflit qui existe depuis toujours est en train de se tendre de plus en plus, et ces personnes-là ont vraiment de plus en plus peur parce que elles ne se sentent pas soutenues. Alors finalement, on revient à cette attention internationale. Là, c'est un peu la seule chose qui les rassure, c'est que il y a d'autres pays qui les regardent, et donc ils espèrent que le fait que d'autres pays soient là permettra d'éviter le pire, en tout cas.
Et sur le terrain, comment ça se manifeste? Est-ce qu'il y a déjà des tensions qui ont dégénéré, justement, par exemple, entre les populations indigènes et des agriculteurs?
Ben là, vendredi dernier, un militant de la FUNAI, enfin, qui travaillait entre autres avec la Fondation gouvernementale pour les indigènes, a été tué. Je crois qu'en juillet dernier également, un chef indigène a été tué également. Donc oui, les choses deviennent très concrètes.
Les droits de ces populations, on l'entend, sont donc menacés. Stéphane Rostin, là aussi, la politique du président Bolsonaro est extrêmement dure concernant les populations indigènes.
Oui, alors ça fait très longtemps qu'on tue allègrement en Amazonie. Il y a 40 ans, on vendait des crânes d'Indiens aux touristes. Hein. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une accélération de ces meurtres. Évidemment, les populations amérindiennes sont les premières touchées. Il ne faut pas oublier aussi les caboclos, les habitants métis de l'Amazonie, qui sont de plus en plus des victimes. Et comme le disait ma collègue, les représentants des ONG, les représentants de la FUNAI, les activistes qui sont assassinés. Mais ça a pris des proportions assez graves. C'est vrai qu'au Pérou, au Brésil, enfin à l'ouest du Brésil, quand il y a une tribu qui gêne, eh ben elle gêne pas longtemps. On envoie des pistoleros pour quelques cruceros. Il tue tous les Amérindiens. Il y a vraiment une politique de meurtre, et c'est vrai que la libéralisation des armes participe à cette violence de plus en plus forte en Amazonie.
Il existe pourtant normalement des institutions qui sont censées protéger justement ces populations. Quelle est leur marge de manœuvre aujourd'hui?
La FUNAI a été passée à un autre ministère au Brésil, donc on a un peu coupé les ailes et les ergots. Du coup, elle ne peut plus tellement défendre les Amérindiens. Et puis, on parle d'une forêt de 7 millions de kilomètres carrés. C'est la taille de l'Australie. C'est pas facile de mettre un gendarme derrière chaque arbre.
Alors, cette question des incendies, de la déforestation, on l'a dit, a fait la une des médias dans le monde entier, ce qui est plutôt rare. On a entendu un certain nombre de dirigeants interpeller Jair Bolsonaro. Le président français, par exemple, en avait fait l'un des sujets à l'ordre du jour du G7 à la fin du mois d'août. Le président brésilien, lui, de son côté, brandit la souveraineté nationale. Oriane Verdier, comment est-ce que ces déclarations de l'étranger ont été perçues au Brésil?
Finalement, chacun reste encore une fois dans son camp, un camp qui devient de plus en plus net, hein, délimité de manière de plus en plus nette. Beaucoup, parce qu'il faut savoir, dans l'état de Rondônia, il y a 70% des votes qui ont été pour Bolsonaro. Donc on est vraiment dans un endroit où il est très très facile d'entendre un discours qui suit celui de Bolsonaro, et donc beaucoup de personnes disent, mais je ne vois pas pourquoi la France ou n'importe quel autre pays devrait venir nous dire à nous, ici en Amazonie, comment gérer notre forêt.
Qui est une ressource en fait.
Voilà, exactement, qui est une ressource, et puis en plus qui est une ressource, les terres agricoles sont extrêmement importantes pour l'économie brésilienne, donc c'est vrai que finalement ça aurait un impact direct dans le fonctionnement de l'économie et du pays. Après, il y a bien sûr, comme je le disais, d'autres personnes, notamment les indigènes, qui eux se sentent rassurés en se disant que peut-être qu'il y aurait une plus grande protection et plus d'écoute en ce qui concerne leur cause à eux.
Alors, cette réaction des autorités brésiliennes n'a pas empêché de nouveaux appels internationaux, même ces derniers jours. Stéphane Rostin, que peut vraiment la communauté internationale? Est-ce qu'elle pourrait intervenir contre l'avis du Brésil au nom d'un bien qui serait commun à toute la planète?
Il faudrait déjà classer l'Amazonie comme un bien international, et c'est pas encore fait. C'est très difficile pour le moment d'imposer des lois extérieures à un pays souverain. En revanche, puisque ces gens-là n'ont qu'une passion qui est l'argent, si vous touchez à leur porte-monnaie, il peut avoir et c'est vrai que quelques grandes entreprises qui commencent à dire nous ne prendrons plus les peaux des vaches du Brésil, on ne prendra plus le soja ou l'essence qui est fabriquée avec. Ce genre de réaction peut en effet avoir des effets, au moins pour faire pas prendre conscience. On peut pas demander l'impossible à une pierre, mais au moins que les décideurs se rendent compte qu'ils vont s'isoler, et un blocus économique, c'est n'est jamais très agréable à gérer. Donc je pense que les réactions doivent être sur le terrain qui touche le cœur, enfin leur cœur, ce sont des dollars et c'est là-dessus qu'il faut taper.
Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Stéphane Rostin, chercheur au CNRS, et Oriane Verdier, de retour du Brésil. Vous pourrez d'ailleurs entendre de nouveaux reportages tournés dans la forêt amazonienne dès demain et puis dans les jours suivants sur notre antenne. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bonne fin de journée, bonne soirée à tous. À demain.